Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, aujourd'hui nous partons à Mayotte, une petite île de l'océan Indien située entre le Mozambique et Madagascar. Tout d'abord un peu d'histoire. Mayotte fait partie des Comores et devient française en 1841 comme l'ensemble des îles de l'archipel. Mais lorsque les Comores accèdent à l'indépendance en 1975, Mayotte est la seule île à vouloir rester française. Elle devient ensuite le 101e département de France et enfin, en 2014, une région ultra périphérique de l'Union européenne et donc une bénéficiaire de la politique agricole commune. Une manne financière importante pour une île dont la population a été multipliée par 10 en 50 ans. 270 000 habitants, dont plus de la moitié à moins de 18 ans. Mayotte doit donc relever un défi qui intéresse tout le monde. Comment produire plus et mieux sur une surface agricole limitée? Igor Strauss s'est rendu sur place pour un reportage aux odeurs de vanille et d'ylang-ylang.
Je m'appelle Abdourahmane Amada. Je suis de Chikoni, Mayotte, et agriculteur, et né d'une famille agriculteur. Je n'ai jamais été dans une école agricole, mais j'ai appris dans l'État, surtout au niveau de la vanille. C'était la culture dominante. Le slogan de Mayotte, dans les temps, c'était l'île au parfum. Donc on avait la vanille, l'ylang-ylang, la citronnelle, la cannelle, enfin toutes les huiles essentielles étaient distillées ici à Mayotte et c'est resté traditionnel jusqu'à maintenant.
Alors comment est-ce qu'elle a évolué cette agriculture justement des années 60 à aujourd'hui avec la pression sur les terres, avec la population qui a énormément augmenté?
Après le cyclone de 1952, c'était comme après la guerre en métropole. Parce que jusqu'en 1952, Mayotte se suffisait en nourriture, elle ne dépendait pas de l'extérieur. On avait les cultures du riz de montagne, on avait les manioc, les bananes, c'était la base. Mais après les cyclones, bon, l'aide qui était venue, c'était du riz importé. Et à partir de là, on a commencé à importer du riz. Donc, et maintenant, on a complètement abandonné la culture du riz.
Et vous pensez que Mayotte pourra atteindre à nouveau l'autonomie alimentaire ou pas?
Non, parce que toutes les terres cultivables maintenant sont déconstruites, parce que tous les ans, il faut construire un collège et un lycée. Donc il faut avoir un endroit plat pour le faire, donc il n'y a pas de terres agricoles. Donc on risque d'aller maintenant cultiver sur les montagnes. Et donc là, de plus en plus, en dehors du réchauffement planétaire, il ne va pas avoir des arbres, donc la pluie viendra de moins en moins.
Merci.
Allez, merci beaucoup.
Bonne journée, monsieur.
Merci à vous.
Allez.
Alors, je m'appelle Anouar, j'ai 33 ans et je suis agriculteur, producteur et distillateur d'ylang-ylang. C'est en malais, ça veut dire la fleur des fleurs, ylang-ylang. Donc c'est une plante à parfum qu'on utilise pour récupérer son huile essentielle à travers une distillation. Donc on peut retrouver cette huile essentielle dans plus de 80 parfums, un peu plus même. La plupart des parfums de grandes marques, il y a de l'ylang-ylang.
Est-ce que c'est la fleur emblématique de Mayotte?
Mayotte a ce nom qu'on appelle l'île au parfum, qui était très prononcé à l'époque, l'île au parfum. Maintenant, c'est un peu l'île au lagon. Mais l'île au parfum vient vraiment de l'ylang-ylang, parce que entre les années 70 et 2000, il y avait de l'ylang de partout à Mayotte. Il y avait soit 750 producteurs. Donc en fait, quand on rentrait dans Mayotte, on sentait cette odeur. Et c'était l'île Anguilang qui a donné ce nom de l'île au parfum à Mayotte.
Et c'est quoi l'odeur de l'île Anguilang justement? Comment la définir? C'est difficile à décrire ou pas?
Pas vraiment, hein. C'est un parfum assez suave, doux, avec comme un arrière-goût de sucré. C'est très soleil en fait, et c'est très très agréable, ça relaxe. C'est un parfum assez relaxant.
Aujourd'hui, ça s'est perdu, cette tradition?
Ouais. Alors, l'histoire veut que depuis le départ de la société Bambao, qui était une société coloniale à l'époque, qui exportait beaucoup d'huile essentielle d'Ylang Ylang, ça c'était dans les années 80, parce que c'était après 1974, le référendum que Mayotte voulait rester département. Donc systématiquement, on ne pouvait pas avoir une société coloniale sur Mayotte. Et puis, par la suite, il y avait Guerlain qui était à Mayotte, dans les années 80 jusqu'aux années 2000-2003. Et quand Guerlain a quitté Mayotte, c'est là où la production s'est effondrée, parce que les producteurs y produisaient, mais il n'y avait personne qui les achetait. Et au fur et à mesure, on a coupé les ylangs pour planter des productions vivrières, bananes, manioc, patates douces, voilà, au détriment de l'ylang.
Alors là, pour décrire, on est dans un paysage somptueux, magnifique, au milieu des petites collines et de la forêt. Tous ces arbres-là qu'on voit, avec des gros troncs, mais pas très hauts, c'est de l'ylang-ylang, c'est ça?
Exactement. Alors, ils sont pas très hauts pour faciliter la récolte. Au bout de 3 ans, après la plantation, on les taille à 2 mètres pour pas qu'ils montent très haut. Et après, tous les 2 mois, on va passer à arracher les gourmands qui poussent par le dessus, pour éviter justement que ça monte très haut et faciliter une bonne production de fleurs à un niveau assez bas, pour justement faciliter la récolte.
On va sortir de la voiture et on va regarder ça de plus près.
Donc ici, c'est l'alambic. Hein. Je pense qu'il prend un peu tout ça.
Mais on est au milieu de la nature, c'est magnifique. On entend le bruit, il doit y avoir une petite rivière ou un petit ruisseau qui coule derrière.
Elle est juste là, parce qu'en fait, de façon stratégique, on plaçait toujours les alambics à proximité d'une rivière pour récupérer l'eau et pour la rejeter après. Donc là, c'est l'endroit parfait. Et puis, il y a ce petit bruit qui est assez agréable. Quand on fait les distillations, le soir surtout, parce qu'en fait, une distillation dure jusqu'à 24 heures. Et donc, on dort là le soir. Et c'est super agréable, quoi. C'est le top.
Là, j'avais cru comprendre qu'ici, à Mayotte, les gens avaient plutôt des petites exploitations, un nombre d'hectares limité. Vous, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Vous avez 19 hectares, ça devient une production importante.
C'est vrai qu'en général, à Mayotte, on n'a pas de très grosses exploitations. Parce qu'ici, on est quand même sur 374 km². C'est pas énorme, mais les personnes qui dépassent les 10 hectares, c'est déjà une exception. Mon grand-père, il avait la chance d'avoir 19 hectares et demi, mais il faut savoir qu'en moyenne, une exploitation agricole, c'est dans les 1,5 hectares, 2 hectares. Entre 0,5 hectares jusqu'à 2 hectares, c'est la moyenne. Voilà. Donc ici, oui, c'est une chance d'avoir une exploitation assez grande. Ça permet justement de diversifier les productions, d'avoir vraiment cette expérience de jardin maoré, c'est-à-dire que dans une parcelle où on a vraiment tout ce qu'on a besoin pour la consommation dans le cercle familial et pour pouvoir en vendre un peu à l'extérieur. Puisque de façon historique, traditionnelle, à Mayotte, tout le monde est agriculteur. Donc on était vraiment en autonomie alimentaire. Ça, c'était notre époque, on était à peu près à... Je ne sais pas combien exactement, mais on n'était pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et bon, au fil des années, on est obligé d'évoluer et d'importer malheureusement, ce qui nous a valu... On a perdu le nom de l'île au parfum, qui a été remplacé petit à petit par l'île poubelle, entre guillemets. Ça peut paraître péjoratif ce que je dis, mais C'est un peu la réalité parce qu'on a eu d'un coup des conteneurs qui sont arrivés de partout avec des sachets, des boîtes de conserve. Et tout ça, ça n'a pas été préparé. On ne nous a pas mis des poubelles à disposition. Voilà, on a consommé sans se poser la question de demain. Et là, on s'est rendu compte que finalement, il faut jeter tout ça quelque part, recycler. Et petit à petit, bon, on commence à peine à se réveiller. Mais le paysage qu'on a de Mayotte aujourd'hui, de façon générale, ce n'est pas celui qu'on avait il y a 20 ans en arrière. Donc moi, l'objectif dans mon exploitation, c'est vraiment de garder cette production, cette identité de Mayotte d'autrefois. D'où le fait de mes journées immersion e-langue dans cette exploitation, où je monte déjà l'e-langue et puis la production mahoraise, la production, le jardin mahorais. Il faut dire que c'est de la permaculture parce que rien ne se perd, tout se transforme à différentes échelles. Et du coup, ben, l'idée, c'est vraiment ça, emmener ces personnes-là dans une immersion de la culture mahoraise.
Vous parliez du problème des débouchés. Est-ce que pour l'ilang-ilang, c'est un problème encore, ça, le débouché ?
Donc les débouchés au jour d'aujourd'hui, c'est forcé de constater que c'est un marché de niche. Pourquoi un marché de niche ? Parce que de 750 producteurs, on est passé à 80. Enfin, inévitablement, la quantité a diminué et on ne peut pas exporter en masse. Parce que dans les années 2000, on arrivait jusqu'à 18 tonnes d'huile essentielle d'ylang. C'est ce que Guerlain et un autre monsieur qui s'appelait Wex. Donc c'était les principaux exportateurs. Quand ils ont cessé leur activité d'export, il a fallu réorganiser la filière et on est toujours là à essayer de réorganiser la filière. Aujourd'hui, moi, ma production, ben, je la vends à travers les touristes, à travers des produits transformés. Mais les débouchés sont assez compliqués, incertains. Mais sinon, il y a un projet de relance de la filière qui est de faire un pôle d'excellence rurale. Et dans ce pôle d'excellence rurale, il est question d'avoir un collecteur qui collecterait les fleurs, qui les distillerait lui-même pour que par la suite, il puisse avoir un produit homogène. Parce que quand Guerlain a quitté Mayotte, il y a eu des personnes qui se sont improvisées collecteurs, mais qui étaient un peu trop gourmands. Ils voulaient avoir une certaine quantité. Et malheureusement, il y a eu des personnes qui ont frelaté les huiles. Et quand, grâce, ils se sont rendus compte que les huiles de Mayotte, les huiles essentielles d'ylang de Mayotte étaient frelatées, ils ont cessé d'acheter les huiles. C'est ça qui a entraîné aussi la chute de la production de l'huile essentielle d'ylang-ylang à Mayotte.
Juste Grasse, c'est quoi ?
Ah, Grasse, c'est la ville. La ville de Grasse, c'est le... dans le sud de France, à proximité de Nice. Et c'est Grasse, on dit que c'est le supermarché des huiles essentielles et de toutes ces essences-là. Donc il y a eu trois phases. La phase où la société Banbao a quitté Mayotte. Le moment où Guerlain et M. Wex ont disparu de Mayotte. Et puis Grasse qui a cessé d'acheter directement à Mayotte parce que l'huile était frelatée. Donc structurer la filière, c'est une urgence. On est en train de le faire pour redonner confiance à l'acheteur et pour ainsi relancer l'ylang de Mayotte. Mais maintenant, il faut lancer des grosses productions. Et là, c'est un autre travail.
Grâce aux subventions de la politique agricole commune dont bénéficie Mayotte depuis 2014, les producteurs d'ylang-ylang comme Anouar touchent désormais 1 000 euros par hectare s'ils conservent ces arbres sur leurs terres et 900 euros supplémentaires s'ils les entretiennent. Une mesure qui incite les agriculteurs à conserver l'un des symboles de l'île au parfum, l'ylang-ylang. Les producteurs de vanille bénéficient également de ces subventions européennes pour sauver la production. Lucie Moutet est ingénieure agronome, coordinatrice de l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte. Elle est en charge de la relance de la filière vanille.
Aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'organisation collective, plus du tout de fonctionnement collectif pour la vanille. Donc, c'est une culture qui est en déclin. Les agriculteurs sont vieillissants et le savoir-faire va disparaître avec eux si on ne fait pas quelque chose. On comptait dans les années 90 plus de 800 producteurs, alors qu'aujourd'hui on en a 80. Et donc, ça serait quand même dommage de voir cette filière disparaître, surtout qu'en ce moment, le cours de la vanille est très élevé. Donc, c'est un revenu qui peut être intéressant pour les producteurs.
Où est-ce qu'on est là?
Donc là, on est chez Tchaka, à Bandradia, qui nous a donc déjà vendu de la vanille, parce que la vanille, on la récolte toutes les semaines, parce que toutes les gousses n'arrivent pas à maturité en même temps. Et donc là, on vient pour le payer de la semaine dernière, et puis pour voir s'il a à nouveau récolté.
Alors là, pour décrire, on est dans un cadre magnifique, en pleine nature, on a quitté la route, et puis après, il n'y a plus de goudron, hein, c'est les chemins de terre.
C'est la piste pour arriver à la parcelle.
Voilà, il y a des bananiers.
Bonjour. Ça va?
Bonjour,
ça va? Là,
il dit que là, il y a déjà jaune, il y a de vert. Là, on fait comment? On prend un tour ou bien?
Parce que normalement, on récolte que les jaunes. Mm-hmm. Et sinon, je peux revenir après pour chercher ce qui restera.
Là, ce qu'on va faire là, on récolte juste, là, il y a des jaunes bien récoltés. Après, là, c'est bon.
D'accord. Et je reviendrai la semaine prochaine ou pas?
Là, maintenant, là, aujourd'hui.
Là, d'accord.
Ouais, au bien, tu es pressé?
Non. On va récolter.
Ouais, on a mis le balance là. L'aide me doit dire qu'on a mis le balance.
Et ça fait longtemps que vous produisez de la vanille, vous, monsieur?
L'an 2006.
On a commencé en 2006, c'est planté la vanille.
Et vous faites que de la vanille ou vous faites d'autres cultures aussi?
Oui, là, il fait la vanille. Il fait le manioc, il fait les bananes.
C'est le jardin maorais, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais.
On n'a aucun producteur qui fait uniquement de la vanille. Ouais. C'est un complément de revenus. Et souvent, du coup, c'est la seule culture de rente. Ou parfois, il y a un peu d'élevage aussi. Et c'est ce qui permet, du coup, d'acheter les maisons ou d'acheter justement des têtes de bétail. En général, voilà, c'est ce qu'ils font avec le revenu de la vanille.
Et vous me disiez que le cours de la vanille en ce moment, il est comment? Il est élevé? C'est un bon business en ce moment?
Il est très élevé.
Pourquoi? Parce que c'est rare, du coup?
Parce que du coup, il y a eu des problèmes de qualité avec la vanille de Madagascar, qui est du coup le premier producteur mondial. Et donc, les acheteurs ont moins confiance dans la vanille de Madagascar, donc ils cherchent d'autres vanilles. Donc forcément, ça fait augmenter le cours. Par contre, voilà, on s'attend à ce que ça redescende, puisque quand c'est haut comme ça, y a beaucoup de pays qui se lancent dans la plantation aussi. Donc après, il faut attendre 3 ans que les lianes commencent à fleurir et qu'on puisse avoir de la vanille. Donc ce n'est pas voué à rester très haut comme ça. Mais en tout cas, c'est le bon moment pour essayer d'organiser les producteurs et puis inciter les jeunes à planter de la vanille.
Alors, quelle est la particularité de la vanille de Mayotte, justement?
Quand on interroge les anciens, ils disent tous que c'est une très bonne vanille. Après, de ce qu'on a, nous, transformé, si je la décrivais, je dirais que c'est une vanille qui se mange avec des plats sucrés. Elle sent un peu le pruneau, le bois. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire sur notre vanille. Mais justement, on va essayer, avec les producteurs, de construire la carte d'identité de la vanille de Mayotte. Qu'est-ce qu'elle est? Comment on en parle? Qu'est-ce qu'elle représente pour l'île? Et voilà.
On va récolter du coup.
Alors Julie, vous en trouvez?
Elles sont encore trop vertes.
Donc pour les décrire, c'est vraiment
des haricots.
Comme des haricots, ouais, c'est ça. Hein. C'est du haricot vert, il faut que le haricot devienne jaune.
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est une gousse de haricot vert. Mm. Ah oui, donc là, voilà, ramasser quand
elles sont... Ouais, mais celles-là, elles sont déjà trop passées, quoi.
Elle a déjà noirci, c'est pour ça.
on voit.
Et comment vous savez que le pied est malade?
C'est normal. C'est normal qu'il y a une noircisse comme ça sur le pied sans se fendre.
C'est déjà mort.
Ouais. Et du coup, ça se voit en plus à l'état de la liane. Elle est toute rachitique et toute sèche. Normalement, quand les gousses sont vraiment matures, elles peuvent noircir sur le pied, mais elles se fendent. Alors que là, on voit qu'elle n'est pas du tout fendue, en fait. Donc ça va pas être une bonne gousse.
Est-ce qu'il y a des, je sais pas comment dire, des pathologies des pieds de la vanille ou des...
Ouais, il y a des maladies. Pour l'instant, justement, on connaît assez mal les maladies. On a demandé un expert du CIRAD de venir en mission pour identifier justement les différentes maladies qu'on pouvait avoir. Donc il viendra en octobre sur le projet. Et donc il va en profiter en même temps pour faire une identification génétique en fait des variétés qu'on a, parce qu'on sait qu'on a c'est la planifolia, mais et on a sûrement aussi des hybrides, parce qu'on voit bien qu'entre les différentes parcelles on n'a pas la même forme de gousse ou la même forme de feuille entre les producteurs, donc on sait pas encore exactement quel croisement on a. Mais pour revenir aux maladies, en fait, comme les producteurs ils cultivent en sous-bois, il y a assez peu de maladies. On va avoir un pied qui va être malade par-ci par-là, mais c'est pas de la culture intensive, donc naturellement, il n'y a pas. On n'a aucune plantation qui est complètement infestée ou qui est en danger à cause des maladies. Par contre, c'est quand même bien de savoir ce qu'on a. Et justement, voilà, s'il y a des seuils critiques pour pouvoir réagir et informer les agriculteurs des pratiques à tenir. Quoi.
Ouais. Là, vous êtes en train de peser, vous avez sorti la balance dans le coffre de la voiture.
Ouais. Et donc là, je vois pas, on est à
400 grammes. Qui représente combien?
Donc pour les grandes gousses, on les achète à 32 euros le kilo. Donc là, comme on a 325 grammes, ça fait 10 euros. Et les petites, du coup, on les achète à 30 euros le kilo. Donc là, on a 77 grammes. Ça fait 2,30 euros. Donc effectivement, là, c'est pas une super récolte pour Chaka, mais comme il a déjà fait une bonne récolte ce week-end, du coup, au final, ça va lui faire quand même plus d'argent. Je vais lui faire sa petite facture. Et voilà. Ou alors je mets tout sur la même.
Donc là c'est bon pour ici?
Ouais. Là on va aller chez un autre agriculteur qui a son terrain pas loin.
Merci monsieur.
Ouais, merci.
D'accord.
Merci. Bon, vous êtes content? Ça va?
Oui, ça va. Ça. Pas de soucis.
Pas de soucis, bon, tant mieux. bonne journée monsieur.
Ouais, bon, monsieur.
Et vous parlez de votre marché, donc où est-ce que vous vendez après cette vanille?
L'année dernière, on l'a vendue en métropole et à Mayotte. Après, sinon, quand je la vends à Mayotte, ça dure même pas 2 mois. Hein. Il y a tellement de demandes en fait et tellement peu d'offres que.
Et concrètement, vous avez combien de. C'est quoi votre production? Vous produisez combien?
L'année dernière, on a transformé 65 kilos, c'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment rien même. En plus, quand on la transforme, elle perd 5 fois son poids, donc vous voyez, on avait 16 kilos. Là, du coup, cette année, on est déjà à 80. Notre objectif pour cette année, c'est 250. Donc on verra bien si on y arrive. Si déjà on arrive à 150, ça sera déjà pas mal. Le but, c'est d'augmenter un peu tous les ans. Donc ça va mettre du temps, et puis petit à petit, on va adapter nos moyens.
Mais le but, c'est quand même d'inciter les gens à replanter de la vanille et à en reproduire, quoi.
Ouais, c'est ça le but. Et puis produire une vanille de qualité, quoi. Une vanille haut de gamme et puis pouvoir se prémunir des chutes du cours mondial de la vanille.
Yeah.
écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes dans l'océan Indien à Mayotte pour parler des bouleversements culturels et agricoles de celle que l'on appelle l'île au parfum. Nous quittons le centre de l'île pour aller tout au sud, là où le climat est plus sec et l'eau plus rare. Nous sommes sur la parcelle d'Ismaël Andaza, un jeune producteur de plantes à parfum et médicinales. Dans son jardin mahorais, on trouve toutes sortes d'essences, mais sa principale fierté, c'est sa vanille certifiée bio qu'il s'empresse de présenter à notre reporter Igor Strauss.
Ici, on est dans la commune de Kanikeli, au lieu dit Angalafadi, à Mronabeja. Et c'est une parcelle familiale que j'hérite de mon défunt père, qui, dans le temps, habitait dans le site, ce qu'on appelait à l'époque les Tobés. Les Tobés, c'est-à-dire que au lieu de vivre dans les villages, les gens ils vivaient carrément dans la parcelle et puis ils vivaient de ce qu'ils produisaient à l'intérieur. Et donc je reprends cette parcelle-là par passion, par amour de la campagne et aussi un petit peu par nostalgie de la vie que je pouvais avoir quand j'étais encore tout petit, parce que là, alors là, si je commence à vous raconter ça, on n'a pas fini.
Mais moi, ça m'intéresse. Justement, c'était comment avant? C'était quoi cette nostalgie? La nostalgie de vivre dans la nature avec les saveurs de l'île?
Alors, les saveurs, les senteurs et toutes les couleurs. Parce qu'à l'époque, il y avait des potagers autour du village où tout le monde travaillait dans ces parcelles-là pour nourrir la famille. Et c'était la femme, c'est très, très rarement les hommes. Dans les années 90, il y avait un monsieur qui est venu avec forcément les pouvoirs publics, ramener toutes ces dames qui travaillaient dans leur petit jardin à côté autour du village. Ils ont tous ramené sur un point précis, le jardin B qu'on appelait, c'est-à-dire le grand jardin qui est au-dessus du village. Et là, on leur a appris, à ces dames-là, d'utiliser les produits phytosanitaires. Alors qu'à l'époque, ils utilisaient, à part les bouses de vache et puis les fientes de poule, elles n'utilisaient que ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai observé, ou plutôt, je n'observais plus les guéguées et toutes ces bestioles, toutes ces papillons qu'il y avait. Et l'objectif que de pouvoir travailler avec la nature, mais que avec la nature dans la nature, à partir de ce jour-là, je me suis dit, voilà, il faut absolument que je le fasse, quoi. Mais, vous entendez?
Non, mais c'est quoi, justement?
Alors, j'ai oublié comment ça s'appelle en français, mais en maori, on appelait ça keu-keu.
Alors, qu'est-ce que vous avez planté, justement? Parce que là, j'aperçois des mangues, alors, bananiers.
Ici, vous allez avoir les bananiers, les papayers. Vous avez aussi les piments qui sont aussi... ici, là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu.
On s'approche, on regarde un peu.
Vous avez ici, là, c'est de la citronnelle, vous voyez.
Ouais.
Juste à côté, vous avez donc de la cannelle aussi. Ah, vous voulez sentir aussi? Oui, tout à fait. Ces parfums, voilà, moi, ça me... J'aime ça, j'adore ça. Et j'ai envie de faire de ça mon travail, tout simplement. Voilà. Tout ça, c'est bio.
Est-ce que c'est compliqué d'avoir la certification?
Bon, c'est des démarches qui sont justement peut-être un petit peu plus compliquées pour certains qui n'ont pas l'habitude de faire de la paperasse. Ça peut être très, très compliqué. Après, c'est pour ça qu'on se réunit en association, pour que chacun puisse apporter un petit peu de son savoir-faire pour faire bénéficier aux autres, pour que justement on puisse y avoir une réussite commune. Parce qu'il ne peut pas y avoir de réussite individuelle malgré ce qu'on peut penser, sincèrement. À Mayotte, on ne peut que réussir ensemble. Voilà.
Finalement, votre parcelle, c'est un vrai jardin mahorais, quoi.
Finalement, oui, c'est un vrai jardin mahorais.
On revient à votre nostalgie
exactement.
De la période de la grand-mère et de la maman qui cultivaient.
Exactement, exactement. Et c'est ça aussi, Mayotte à l'authentique. Et c'est ça aussi qu'on doit transmettre à la génération future. Pour que la chaîne ne se brise pas. Et si elle se brise, ce sera de notre faute.
Mangina zaza, mangina, mangina zaza.
Voir les gousses.
La vanille, vous savez, c'est un bébé qu'il faut très très bien soigner parce que sinon on la perd.
On vous suit?
On va aller voir les bûches.
On va aller voir les vanilles. Alors j'ai deux façons de faire. Il y a une manière traditionnelle qui consiste à échauder tout le tralala. Et puis une autre, ça c'est mon secret. Et je vais vous montrer,
c'est pas très très haut, mais le nombre de fois qu'il faut faire ce travail-là.
Ah ouais, là, il y a une bonne quantité là.
Alors, vous voyez un peu ça? Touchez un petit peu la texture, un petit peu.
Ouais, ouais.
Vous voyez, donc là, elles ont 5 jours. Plus on les met au soleil, plus ils commencent à se ramollir un petit peu. Au départ, c'est dur. Et plus le temps passe, et plus elle va se ramollir. Et il faut la masser, hein, comme un bébé. Ouais. faut vraiment passer du temps avec, quoi. C'est quand on commence à faire de la vanille, quand on a commencé à échauder et transformer de la vanille, si on en a beaucoup, on n'a plus le temps de faire autre chose. Il faut la travailler à chaud comme ça, parce que quand elle se refroidit, elle risque de durcir un petit peu. On ne peut plus la travailler. Et c'est en la travaillant comme ça, en la massant, que les arômes vont vraiment se réveiller et que là, on aura... Celle-là, elle va sentir un petit moment, mais celle-là, elle commence vraiment à venir, vous voyez là, ouais. Parce qu'au départ, comme celui-là, au départ, il n'y a pas ce parfum-là, on ne l'a pas. Ah oui, ça sent bon. Hein.
Ça sent très bon.
Tu plantes une liane de vanille cette année. Il te faut l'entretenir pendant 3 ans pour qu'elle commence à fleurir. J'ai bien dit fleurir. Et là, il va te falloir te lever tous les matins à 5h du mat pour te rendre au champ et féconder chaque fleur pour qu'elle puisse, au bout de 9 mois, donner une gousse. Espérant que les oiseaux et les soucis n'ont pas encore bouffé la fleur avant. Donc, 9 mois après, il va falloir que tu viennes récolter les gousses et les transformer. C'est pas fini. Il va falloir les sécher et les affiner sur, allez, 6 mois. Donc, on avait dit 3 ans, plus 9 mois, plus 6 mois, ça fait combien? On va dire, allez, à peu près 5 ans, plus ou moins, à peu près 5 ans, avant de vendre une gousse de vanille. Quelqu'un qui a conscience de tout ça, même si au départ, il pense que c'est cher, il changera forcément d'avis.
Non, elles sont belles. Bravo.
Et merci. C'est le client final qui dira son dernier mot. Parce que moi, je dis mon dernier mot. J'adore.
Nous avons demandé à Ismaël Andaza le prix de sa vanille certifiée bio qu'il vend à une coopérative et à des restaurateurs en métropole, mais c'est un secret qu'il garde aussi précieusement que son savoir-faire pour transformer cette vanille. Nous retournons à présent dans le centre de Lille à Ongojou, rencontrer Ishak Ibrahim, un jeune éleveur reconverti il y a 3 ans. Au bout d'une piste en piteux état et difficilement praticable à la saison des pluies, on arrive dans sa petite exploitation. Ça broute là, hein?
Ouais.
C'est l'heure du déjeuner, donc là, ça rigole plus.
Ah, c'est l'heure du déjeuner là pour les vaches?
Ouais.
Donc, elles mangent quoi? C'est du bambou?
Donc, ça, c'est de l'avocat marron. La plupart des exploitations à Mayotte, on donne ça à nos animaux parce qu'on n'est pas encore. En mesure de leur fournir des vrais aliments comme on trouve en métropole.
C'est quoi des vrais aliments?
Donc c'est plutôt avoir du foin, comme en grande métropole, ou bien des légumineuses, par exemple.
Est-ce que ça, on n'en trouve pas ici, du foin ou des légumineuses?
Non, on n'en trouve pas. Donc on se limite à avoir sinon une alimentation qu'on appelle à Mayotte la canne fourragère. Il y a les arbustes et puis le tronc de bananier. Comme la plupart de nos exploitations n'est pas équipée en eau, donc le tronc de bananier est 80% d'eau. Ça nous aide pour l'abreuvement des bêtes.
Est-ce que vous n'êtes pas équipé en eau? Il n'y a pas d'eau?
Non. La plupart des exploitations à Mayotte, ils n'ont pas d'eau. Moi, j'ai le privilège d'avoir été accompagné par le projet FEADER.
C'est quoi?
Alors, c'est le Fonds européen de développement agricole et rural pour Mayotte. Donc, c'est un dispositif qui existe au niveau national, partout en Europe. Moi, j'ai été le premier bénéficiaire de ce dispositif à Mayotte parce que j'ai repris une exploitation familiale. Je ne suis pas du tout issu d'une formation agricole. Je suis photographe à la base.
Ah oui?
Oui, j'ai exercé pendant une vingtaine d'années dans la photographie. Et après...
De presse ou de...
De mode et de presse. J'ai fait les deux. Voilà.
Donc, changement radical de vie en devenant, en reprenant l'exploitation familiale.
Exact.
Alors, agriculteur et éleveur, puisque là, on est devant vos bêtes.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'élevage, sachant qu'il n'y a ni eau, ni fourrage pour les animaux? Il fallait être fou, j'ai envie de dire.
Mais justement, l'envie de prouver qu'on peut faire avec un projet bien réfléchi. Parce que dans mon projet, j'ai quand même investi dans un forage hydraulique qui me permet maintenant d'être autonome en eau. Sur mon bâtiment, j'ai la possibilité de récupérer l'eau de pluie.
Donc en fait, c'est un toit en tôle,
voilà,
légèrement incliné. Effectivement, on voit une gouttière au bout, deux gouttières de chaque côté,
voilà,
pour récupérer les eaux de pluie. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Voilà, je récupère les eaux de pluie et je la stocke dans une citerne souple de 30 mètres cubes.
D'accord.
Et ça me sert à abreuver mes animaux pendant une saison sèche, en attendant la saison des pluies.
Du coup, c'était un défi, l'élevage ici? Et est-ce que vos parents et vos grands-parents faisaient déjà de l'élevage?
Moi, mon grand-père, il faisait pas de l'élevage. Lui, il était plutôt dans les épices. Mon père, lui, il a dit, bon, écoute, je vais reprendre l'exploitation paternelle. Et lui, il s'est mis dans l'élevage. Commencé avec 2-3 têtes de bovins. Et là, on est à 14. Et c'est le premier à s'opposer à cette reconversion professionnelle. Mon père, pour lui, m'a dit non, c'est pas un métier, c'est pénible. Avec toutes les difficultés qu'on rencontre, déjà on voit l'accès, peu de mécanisation, voire pas du tout de mécanisation. Travaille tout à la main. Donc il m'a dit non, c'est pas un métier. Mais avec le temps, quand il découvre les investissements que j'ai mis dans mon projet, il s'est dit ok, d'accord, le petit jeune, il a eu raison de reprendre... l'exploitation.
Parce que ça, c'était pas le cas avant?
Non. Avant, les animaux, ils étaient sans abri, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il... toute saison, ils étaient vraiment à l'extérieur, dans la boue. Donc, quand il a vu que dans le projet, j'ai tout de suite commencé par le bâtiment pour mettre les animaux à l'abri, là, ça, il a quand même un peu changé d'avis pour voir que les animaux ils sont dans des bonnes conditions.
Vous parliez de tout faire à la main, mais il y a un tracteur quand même là.
Voilà.
Un gros tracteur rouge qui a l'air tout neuf.
Et à vu tout ça, il s'est dit que ok, le petit jeune, il ne va pas travailler comme moi. Il ne va pas souffrir comme mon cas. Et maintenant, il a dit ok, vas-y, bon courage dans la profession.
Et alors, ces bovins sont destinés à quoi?
Donc, les bovins sont destinés à l'abattage pour les manifestations culturelles. Les bovins sont destinés qu'à ça. On n'a pas d'abattoir pour la structuration de la filière. Donc on...
Aucun abattoir à Mayotte pour les bovins?
Aucun abattoir.
Ça, comment vous l'expliquez? C'est parce que traditionnellement, il n'y avait pas un grand élevage de bovins, par manque de moyens, par manque d'organisation de la filière?
C'était par manque d'organisation de la filière et aussi par pratique coutumière. Et souvent, c'est destiné à un événement culturel, familial. Mariage, même quand il y a un décès, on abat.
Donc, on abat traditionnellement.
Voilà, on abat traditionnellement. Donc, d'où le fait qu'on n'a pas, on n'avait pas pensé à un abattoir. L'idée de créer l'abattoir, c'est avec l'arrivée des fonds européens.
Ça, ça a dû être un sacré coup de pouce quand même pour les agriculteurs et les éleveurs. Parce qu'on imagine que sans ces aides de l'Union européenne, la situation serait plus compliquée aujourd'hui.
Bien sûr, c'est un sacré coup de pouce pour la profession. Et le seul regret que je constate, c'est qu'il y a très peu d'agriculteurs qui sont éligibles à ces aides.
Et pourquoi?
Parce que ça n'engage que moi. C'est des aides qui sont destinées à des professionnels. Et ici, on a l'habitude de pratiquer l'agriculture comme une culture, non professionnellement. C'est juste de l'autoconsommation. Donc, c'est ce paramètre qui fait que très peu de producteurs à Mayotte sont éligibles aux fonds européens.
Wenda mamuzungu jowona lada, weila ulala, wojowona ra.
En 60 ans à peine, la population de Mayotte a été multipliée par 4. Difficile donc pour les agriculteurs de faire face à une demande de plus en plus importante sur des surfaces limitées. Et depuis quelques années, l'île doit faire face à une agriculture informelle, voire illégale, avec l'utilisation de pesticides souvent interdits en Europe, donc à Mayotte. La production de tomates est l'exemple type de cette agriculture non respectueuse des normes sanitaires et environnementales. Pour tenter de limiter ce phénomène, le lycée agricole de Cocony a entrepris sa conversion au maraîchage biologique. Le but, tester des variétés de fruits et légumes qui ne sont à l'origine pas adaptés à un milieu tropical et voir comment elles s'adaptent à la chaleur et aux maladies. Thomas Chenot est responsable de culture sur l'atelier maraîchage du lycée agricole de Cocony.
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, on va dire qu'il y a certains bioagresseurs, donc certains ravageurs, certains insectes notamment, qui sont responsables d'une grosse partie d'utilisation des produits insecticides. Je pense notamment à des ravageurs aériens, c'est le cas d'une mouche qui piquent dans les fruits, que ce soit les fruits des légumes fruits, donc comme la tomate. Donc c'est une culture phare, la tomate, c'est la culture la plus consommée. Donc c'est un enjeu important de réduction. Et donc notamment, pour gérer ces problématiques de manière durable, sans utilisation d'insecticides, on préconise l'utilisation de filets. Les filets, c'est une manière rapide et directe de sécuriser fortement les rendements et donc les revenus des agriculteurs. Ensuite, on a des méthodes qu'on va qualifier de préventives aussi. C'est-à-dire qu'on va préconiser des systèmes où on diversifie les rotations culturales, puisqu'on a ici aussi à Mayotte des maladies du sol qui sont particulièrement présentes dans des sols où on fait tout le temps les mêmes cultures, notamment tomates sur tomates sur tomates. Donc je pense à une maladie, le flétrissement bactérien. Là, on préconise des rotations diversifiées, donc varier les familles de cultures. Et c'est des cultures qui, par nature, sont des cultures de rente, donc dont l'objet premier est de générer un revenu. Donc beaucoup des agriculteurs qui vont se mettre dans le maraîchage ont tendance à intensifier le système maraîcher et donc à ne pas l'intégrer dans une forme de jardin maoré, puisqu'ils investissent notamment dans des abris, dans des infrastructures liées à l'irrigation, etc. Et donc leur objectif, c'est sur une surface réduite de produire davantage de légumes. Donc dans ce contexte-là, on propose des techniques qui vont leur permettre d'améliorer les sols, d'utiliser des variétés qui vont être plus résistantes, plus tolérantes à des maladies, de travailler sur le sol, donc en apportant davantage de matière organique, puisqu'on sait que nourrir le sol, c'est nourrir les plantes, et des plantes en bonne santé, c'est des plantes qui vont mieux se défendre contre les maladies et également les ravageurs. Donc toutes ces techniques-là, c'est des techniques primordiales pour assurer la pérennité, la durabilité des systèmes maraîchers.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter.
Christophe Bretagne, directeur du lycée agricole de Coconi.
Comment vous voyez l'avenir de l'agriculture ici ?
Alors moi je suis optimiste par nature, donc l'agriculture va devoir se développer, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que, ou alors ça veut dire qu'on abandonne l'agriculture et qu'on deviendra, on deviendra une île complètement dépendante au niveau alimentaire, ce qui n'est pas envisageable. Pas, et puis pas sur un territoire comme celui-ci pour une raison très simple, c'est si vous enlevez l'agriculture, on va avoir un problème environnemental majeur. Puisque dans le monde entier, alors les agriculteurs sont souvent accusés d'avoir détruit le territoire, mais aujourd'hui, avec le retour un peu sur le maintien de la biodiversité, la protection de l'environnement, les agriculteurs sont les principaux responsables de l'entretien des espaces. Ils sont indispensables aujourd'hui à l'entretien des espaces. Et à Mayotte, on a cette problématique des entretiens des espaces, avec beaucoup d'espaces naturels, certes, mais aussi avec beaucoup d'espaces où la végétation prolifère à une vitesse extraordinaire. Et donc, si on veut développer du tourisme, par exemple, il faut de l'agriculture. Parce que sinon, les espaces seront complètement vierges et les touristes ne pourront pas s'y déplacer. Donc il faut des agriculteurs pour que, bien sûr, ils entretiennent, ils produisent des produits locaux. Donc les produits à développer, oui, il faut s'appuyer sur des niches. Donc l'ylang-ylang, c'en est une, c'est un produit intéressant. On est reconnu pour ça en plus, donc c'est intéressant. La vanille, on a de la concurrence autour de nous, mais on a une qualité de vanille qui est intéressante. Et puis il y a plein d'autres produits, je pense, que l'on peut développer pour des niches, on va dire, qui sont des intérêts purement de rente financière, hein, faut le reconnaître, mais ça sert au développement de l'agriculture. Et puis après, il y a d'autres produits, comme, enfin, il faut développer le maraîchage pour nourrir la population et pour bien la nourrir. Voilà. Et ça, effectivement, il y a du travail à faire. C'est, le problème, c'est que c'est pas simple. On va se heurter à deux points fondamentaux, c'est l'accès au terrain, ça c'est quand même la priorité, et puis l'accès à l'eau. Parce que de l'agriculture en milieu tropical humide, on pourrait se dire, bah, c'est facile, il pleut.
Oui, mais il pleut 6 mois de l'année, le reste...
Forcément au bon moment. La quantité de pluie qui tombe d'un coup n'est pas forcément utilisable ou utilisée par les plantes, donc de toute façon, il faut le réguler. Et qu'aujourd'hui, très peu de surfaces agricoles sont irriguées, et on a du mal, parfois, en période de sécheresse notamment, on le voit bien, à alimenter la population en eau. Donc on sent bien que les réserves en eau aujourd'hui sont insuffisantes, parce que le jour où on va développer l'agriculture et de l'agriculture irriguée, la consommation en eau va être très importante. Et du coup, alors qu'aujourd'hui on a déjà du mal à nourrir la population, il faudra faire un choix, et on sait très bien le choix qui sera fait, entre nourrir la population ou alimenter les agriculteurs pour leurs plantations. Alors, on nourrira la population, c'est évident, on ne peut pas dire à la population qu'on n'avait plus d'eau. Donc il y a un vrai projet à faire sur la récupération d'eau, la maîtrise de l'eau, pour ensuite la redistribuer sur l'agriculture.
Merci.
Ben, avec plaisir.
Mayotte, les défis agricoles de l'île au parfum, c'était un reportage d'Igor Strauss réalisé par François Porcheron. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission sur les réseaux sociaux, #CPDV, et vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur l'application Pure Radio de RFI. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.